Deuxième balade en été, on a de la chance avec ce beau temps là, de jour en jour, c'est merveilleux. Il est un peu tôt, il est à peu près 9h, il fait encore un peu frais mais on a le soleil dans le dos et ça devrait s'arranger assez rapidement. On est à l'Arboretum qui est vraiment un des plus jolis lieux de Chartres, en compagnie toujours de Pierre Boudier, directeur du musée d'histoire naturelle de Chartres. Alors on va peut-être d'abord situer pour les auditeurs où se trouve exactement l'Arboretum, ou pour les touristes de passage qui nous écouteraient, on ne sait jamais.
Le jardin de la société d'horticulture, donc l'Arboretum est un peu à l'écart de la ville, hein, puisqu'on se retrouve avenue d'Aligre sur le chemin des Grands Prés, donc dans la partie opposée à l'autre jour, puisque nous sommes à la partie nord de la ville, un peu à l'écart, donc ce qui fait que le jardin n'est pas autant fréquenté qu'on pourrait le penser du fait de sa situation. Donc là, on est sur un espace qui est à peu près, fait un peu moins de 2 hectares, qui est un jardin créé par la Société d'horticulture d'Eure-et-Loir dans les années 1880 à peu près, donc qui a plus d'un siècle. Et la société en a fait don récemment à la ville de Chartres, donc qui est actuellement l'unique propriétaire, en échange de la restauration du magnifique petit bâtiment qui se trouve à l'entrée du jardin, qui vient juste d'être restauré par la ville. Donc on est dans un espace qui a été conçu comme un jardin un peu style à l'anglaise, hein, qui avec des arbres, donc des arbres qui ont plusieurs périodes de plantation du fait de l'historique du jardin.
Il y a combien d'essences à peu près, combien d'arbres ?
Alors, apparemment, vu le plan, il y a une centaine d'essences qui sont des essences arborées, hein, qui sont présentes dans le jardin. Alors donc au niveau historique, pour continuer un peu sur l'aspect historique, il a été créé à la fin du 19e par une des personnes qui était un paysagiste de Chartres, qui est des premiers paysagistes qui existaient en France, disons, dans le style privé, quoi, hein. Et donc on va avoir sur ce terrain plusieurs générations d'arbres liés à l'histoire du jardin. Alors en particulier avec la guerre en 40, comme la voie ferrée, une voie ferrée passe au ras du jardin, le jardin était abondamment bombardé en 44 et donc fortement endommagé. Donc en fait on va avoir une série d'arbres qui correspond à des arbres qui ont été plantés à l'origine du jardin, donc des arbres qui ont plus d'un siècle. On va avoir des arbres plantés après la guerre, donc des arbres qui ont 70 ans. Et puis bon, comme tout être vivant, les arbres meurent, et donc on va avoir des renouvellements avec des générations d'arbres plus récents. Vous voyez. Donc on a au moins 3 générations d'arbres sur le jardin.
Alors c'est un lieu hautement poétique, les arbres le sont, mais les noms des arbres le sont tout autant. Quand on arrive et qu'on consulte le plan de l'arboretum, on tombe sur des noms absolument magnifiques, l'érable sycomore pourpre, le désespoir du singe. Le désespoir du singe, vous allez peut-être nous dire pourquoi ça s'appelle le désespoir du singe tout à l'heure, on verra. Il y a aussi le skimi du Japon, il y a le bouleau de l'Himalaya, vous voyez qu'on voyage beaucoup à l'arboretum.
Le plan permet comme ça rapidement de situer un petit peu les différentes origines des essences. Hein. Oui. Alors donc globalement, il est bien évident qu'on est sous un climat tempéré, hein, et donc on ne peut pas avoir bien sûr des essences équatoriales ni des essences tropicales. Donc on a essentiellement des essences de climat à peu près équivalent à chez nous.
On va se promener alors ?
On va faire un petit tour.
Allez, c'est parti.
Donc on a un chêne assez extraordinaire qui est un chêne fastigié. Donc c'est un chêne pédonculé qui a une forme horticole qui a les rameaux appliqués sur le tronc. Ce chêne-là est pas énorme en taille, mais c'est un arbre qui a aussi plus d'un siècle.
Hein. Il ressemble pas du tout à nos chênes, hein, aux chênes qu'on trouve dans nos forêts ici, quoi.
Bah disons que c'est une forme horticole d'un chêne. Alors sur le plan écologique, il est moins bien adapté que nos chênes traditionnels, puisque il a des rameaux appliqués sur le tronc, donc il prend moins de lumière. Après, on a dans la même série de plantations, de périodes, disons, de plantation, vous avez un Douglas, hein, le sapin de Douglas, qui est un arbre américain, qui peut atteindre, alors lui en Amérique, 100 mètres de haut. Hein. Et là, donc, on est sur un arbre qui fait de 2,16 mètres de circonférence, qui a une taille tout à fait honorable, hein, au moins une quarantaine de mètres. Alors, il faut savoir aussi que nos arbres, dès qu'ils viennent un peu haut, ils sont souvent foudroyés, ce qui leur coupe la tête.
Le sapin Douglas, il pousse où aux États-Unis ?
Alors, tout ça, c'est des arbres de secteur de la Californie. Hein. Il a la particularité, s'il y en a qui aime un petit peu les odeurs, de sentir la citronnelle hein, quand on froisse les aiguilles. Donc ça, voilà, on a, dès l'entrée, on a trois arbres qui nous surprennent par leur taille, qui sont des arbres donc, qui ont plus d'un siècle et qui nous accueillent dans le jardin. Alors le jardin, c'est un endroit relativement intéressant pour un paysagiste, puisqu'il y avait une source. Le paysagiste a essayé de valoriser la partie source, il a surcreusé, si vous voulez, la partie basse, il a augmenté un petit peu la pente, ce qui fait qu'on a une position un peu de cirque hein, du jardin, ce qui fait que quel que soit l'endroit où on est dans le jardin, on a toujours l'impression d'être isolé, on n'a pas l'impression d'être dans un endroit en ville. Bah, c'était un lieu privé avant, hein, c'était un lieu de la Société d'horticulture d'Eure-et-Loir qui faisait des manifestations. Hein, qui accueillait. Donc l'entrée était gratuite pour les gens de la société. Après, il y avait des manifestations qui étaient organisées par la société. Donc on est là, je parle de la partie 19e et puis jusqu'aux années 40. Hein. Oui. Après, bien sûr, le jardin est devenu ouvert au public après la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire.
Là, on voit une jolie pièce d'eau avec des palmipèdes dont je ne connais pas l'identité.
La partie en eau est occupée par la bernache du Canada. Et puis il y a des poules d'eau, je pense, qui fréquentent aussi. Mais bon, donc la bernache est un oiseau introduit, alors que les poules d'eau sont des oiseaux d'ici, voilà.
Des autochtones. Voilà, il y a un petit pont, on peut passer, traverser le petit pont, on se retrouve dans une bambouseraie, une petite ambiance sino-japonaise.
Bah voilà, tout à fait asiatique. Hein. Bon, beaucoup plus fraîche effectivement, parce que ça pousse très fort et c'est très très dense. Donc là, on vient d'entendre une poule d'eau.
Et on traverse le pont.
Donc là, à côté de nous, on a un cèdre, hein, cèdre de l'Atlas, qui lui, par contre, est un arbre qui a été planté dans les années juste après-guerre. Hein, on voit, je dirais, facilement à la taille, ces différences d'âge sur les arbres.
Alors là, on se croirait dans un haïku, là, voilà.
bambouserie, c'est la bambouserie très très dense, hein, magnifique bambou, là.
Mais le bambou s'acclimate très bien, on en voit de plus en plus, je trouve, un peu partout.
C'est même, faut faire attention, parce que ça peut être même envahissant, je veux dire. C'est une plante dont on a du mal à maîtriser. Quand les conditions du sol lui sont favorables, hein, c'est une plante dont on a un peu de mal, des fois, à maîtriser le développement.
Hein. Elle peut manger les autres, quoi.
Bah, disons que c'est, quand on voit là, ici, il y a quelques mètres carrés, c'est déjà très très dense. Hein, donc, mais il prend sa place, quoi.
Oh, ça c'est un...
Alors on a un hêtre qui est assez original, puisqu'il a si on se rapproche là, donc le hêtre normalement il a la feuille entière, c'est-à-dire ça fait un bel ovale, alors ici on a un hêtre qui a des feuilles découpées. Ah, donc c'est une forme pareille, c'est une forme horticole qui effectivement dans la nature a pu exister, enfin existe, mais est éliminée par les autres qui vont mieux pousser puisqu'ils ont des feuilles plus grandes. Hein. Donc c'est une forme assez originale qu'on appelle le hêtre feuille de chêne parce qu'il a la feuille un peu découpée comme le chêne. Mais c'est c'est la même espèce que le hêtre de nos forêts. Hein. Et à côté il y a un magnifique frêne, alors là lui qui est pareil, un arbre du début des plantations, donc lui...
Il est immense, immense, ouais.
Il fait 3 mètres de circonférence, là, le tronc, et donc un arbre, il doit faire entre 40 et 45 mètres de haut, hein, qui est assez... il vous montre un petit peu ce que peut donner à ce type d'arbre quand les conditions sont favorables. Ici, on est dans des bonnes conditions pour le frêne, puisque le sol est frais, on est aux abords là, de l'eau. Et le frêne est un arbre qui nécessite quand même un sol relativement humide. Hein.
comment on calcule l'âge d'un arbre? Est-ce qu'on peut le calculer avec la circonférence, par exemple?
Alors l'âge d'un arbre ne se calcule absolument pas par la circonférence, tout dépendra des conditions dans lesquelles il peut pousser. C'est-à-dire, on peut avoir un arbre qui pousse dans de mauvaises conditions, il fera des croissances très faibles.
Alors là, je viens de voir un tout petit troglodyte et je ne pensais pas que le troglodyte chantait aussi fort, hein, ce tout petit oiseau. Ah,
là, le troglodyte est un petit oiseau, mais qui chante très fort, hein, et qui là, effectivement, a dans les systèmes comme la bambouserie, tout ça, il trouve tout à fait son milieu. Hein.
Mais parce que alors, c'est un haut lieu de la flore, mais c'est aussi un haut lieu de la faune. Il y a beaucoup d'oiseaux.
Beaucoup d'oiseaux, bien sûr, puisqu'il y a des très vieux arbres, il y a une plantation assez dense. Donc on va avoir des oiseaux des différents étages, je dirais, des oiseaux qui peuvent nicher au sol, des oiseaux qui peuvent nicher dans des fourrés, et puis les oiseaux qui aiment bien avoir être nichés en hauteur.
Hein. Oui.
Donc ça c'est sûr que c'est très très favorable.
يقترح جلجامش على أنكيدو القيام بحملة على الوحش خنبابة حارس غابة الأرز من أجل قطع أخشابها. أنكيدو يؤكد أن ذلك مستحيل لأن خنبابة لا يقهر. كيف تذهب إلى الأرز وحامي الغابة قوي لا ينام عينه إنليل حارسا.
On poursuit notre balade. Là, on est à l'ombre. Il fait un peu frais à l'ombre, hein, le matin, mais l'après-midi, c'est un vrai bonheur, évidemment.
On va se diriger vers le ginkgo, qui est un des ginkgo. Qui est le premier ginkgo qui a été planté en Eure-et-Loir. Donc pareil, c'est un arbre qui a plus d'un siècle et qui se trouve tout à fait en bordure du viaduc. Donc le viaduc a été abondamment bombardé, bien qu'on n'a jamais réussi à le détruire. Mais par contre, donc, on avait bien détruit le jardin et on n'a pas détruit le ginkgo, oui. Donc qui a également résisté.
Il n'a pas souffert de la vapeur à l'époque où les trains étaient à vapeur.
Je ne pense pas, non. Alors par contre, il a souffert énormément de la tempête de 99. Donc je précise une chose, c'est que le ginkgo est un arbre qui a des pieds mâles et des pieds femelles.
Expliquez-nous ça, oui.
Donc, juste, il y a des pieds où il n'y a que des fleurs mâles et puis des pieds où il n'y a que des fleurs femelles. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est greffer un pied, sur un pied mâle ou femelle, greffer l'autre sexe. Ce qui était le cas ici, on avait donc un arbre sur lequel il y avait un greffon, donc c'est un pied femelle sur lequel on a mis un greffon mâle. Oui. Et alors en 99, malheureusement, la tempête a fait tomber le greffon mâle.
Le ginkgo, il vient d'où? C'est un arbre japonais?
C'est un arbre asiatique, hein, qui appartient à ces arbres qui sont près des temples en général. Hein, qui ont été, alors l'arbre qu'on a ici, il fait 4 mètres, pratiquement 5 mètres de circonférence.
Le tronc est très...
Le tronc est un peu abîmé du fait de cette branche qui a cassé, qui est quand même une branche qui faisait pratiquement 2 mètres de circonférence quand elle a cassé. Hein, donc, ouais. Donc c'est vrai que ça a déstabilisé un peu l'arbre.
Enfin, ça lui donne un charme.
Façon de parler. Disons que on voit bien qu'il est amputé. Enfin bon, il reste quand même assez majestueux. C'est un des plus beaux, enfin à mon avis pour le département, c'est le plus beau ginkgo du département.
C'est un arbre qui est très à la mode, hein, aujourd'hui, je trouve.
Oui, bon, disons qu'il est... Enfin, il faut aussi faire attention. Alors, l'intérêt aussi du jardin, pour des gens qui ont acheté une maison avec un espace, c'est de voir aussi l'ampleur que peut prendre une essence. Et donc de se méfier de ne pas planter n'importe quoi dans un espace restreint, quoi, hein, parce qu'on est tout de suite après un peu contraint des fois d'abattre des arbres parce qu'ils sont, ils deviennent gênants. Donc le gigot en question, il prend largement plusieurs centaines de mètres carrés, je dirais, en termes de surface. Bon, enfin, il a déjà ces arbres qui ont 130 ans, hein, donc ils ont déjà relativement d'ampleur. Donc ça, voilà, c'est un arbre qu'il faut venir voir, bien sûr, à toute saison, mais surtout à l'automne. Hein. C'est l'arbre aux mille écus. Mille écus, alors, on peut avoir différentes interprétations, mais en particulier, à l'automne, il devient jaune d'or. Ben, vraiment, d'un jaune extraordinaire. Et là, c'est vraiment un plaisir de venir le voir à cette saison.
D'ailleurs, on sait que les Asiatiques, hein, aiment beaucoup venir voir les différentes saisons d'un arbre. Il y a le cerisier en fleurs au Japon, voilà, par exemple.
Tout à fait. Ça mériterait aussi d'avoir un peu cette démarche. Donc aujourd'hui, il est ouvert, il est magnifique avec des feuilles. Et puis on voit les, entre guillemets, les fruits. Enfin, c'est pas vraiment des fruits, mais qui sont en place là dans l'arbre. Hein.
Ça, c'est absolument pas comestible. Hein.
Ah, si, c'est comestible. C'est un peu original, mais ça peut être comestible.
Ouais. Ah, mais dites-moi, alors, ça a le goût de quoi?
C'est pas terrible, mais si, c'est pas toxique.
C'est pas toxique, d'accord. Enfin, ne vous avisez pas de cueillir, hein, le fruit du ginkgo, l'arboretum de Chartres, on pourrait peut-être vous en vouloir. Hein.
Voilà, donc à côté de ce ginkgo, on a des plantations, je crois, plus récentes, par exemple. Et, ah oui, il y a un chêne vert. Le chêne vert n'avait jamais été planté dans le parc, là. Donc ça, voilà, une plantation tout à fait récente, hein, qui a été faite il y a quelques années et qui attend. Peut-être que dans un siècle, on admirera le chêne vert.
On ne sera plus là. Hein.
Pour le... Donc ça, c'est des plantations qui ont fait l'objet de parrainage. Actuellement, il y a un certain nombre d'organismes qui peuvent parrainer des arbres. C'est une manière aussi de s'impliquer dans l'espace public. Hein.
Alors là, ça, ce sont des peupliers d'Italie, dites-moi.
Ah voilà, donc le peuplier d'Italie qui ressemble par sa forme aux chênes fastigiés qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Hein, donc, peuplier d'Italie qui est un peuplier noir, donc pareil, à rameaux fastigiés qui reste collé sur le tronc. Ouais. Hein, c'est des formes horticoles, hein, qui n'ont d'intérêt que sur le plan esthétique. Alors, ils prennent moins de place, hein, puisque le feuillage ne s'étale pas. Après, ils permettent de faire des plus serrés, moins qui prennent moins d'ampleur. Voilà, il y a une certaine utilisation qui peut être faite de ce type d'arbre, et qui, par contre, ont moins d'intérêt sur le plan, je dirais, de la production de bois au sens pour la menuiserie, pas pour le bois de chauffage, parce qu'en fait, on peut faire du bois de chauffage très de qualité avec, mais moins pour la. Et c'est plein de nœuds.
C'est un arbre qui chante bien. Bon, là, il y a le trafic derrière nous, mais c'est un arbre qui chante toujours, le peuplier d'Italie. La moindre brise.
Alors, les peupliers sont... Enfin, surtout le tremble, hein, mais les peupliers ont la particularité d'avoir des pétioles plats, au lieu de les avoir circulaires. Alors, quand on les prend entre les doigts, on voit que ça roule mal. Et donc, les feuilles sont plus sensibles au mouvement du vent. Hein. Mais c'est plutôt sensible sur les peupliers de manière, mais surtout le peuplier tremble, qui, comme son nom l'indique, tremble sans arrêt, hein, lié à la forme, c'est la forme du pétiole qui provoque cette capacité à résister. Et là, on voit des peupliers qui sont attaqués par des pucerons,
ah oui,
qui forment des galles, donc des excroissances, sur le pétiole du peuplier.
Ça peut être embêtant, ça?
Oui. Non, là, c'est du petit parasitisme.
Il faut que tout le monde vive.
Il faut que tout le monde vive, exactement. Non, c'est-à-dire, ça ne met pas en péril l'arbre. Alors là, on passe au pied d'un tulipier, hein, qui est un arbre américain du centre de l'Amérique, qui est appelé tulipier parce qu'il fait des fleurs un peu comme des tulipes. Ce qui est très original, c'est la forme des feuilles, hein, qui sont des feuilles qui ont deux lobes au sommet, ce qui est assez original. Alors là, on est sur un arbre qui a une soixantaine d'années, hein, qui n'est pas encore...
Il est beau déjà pour 60 ans, hein. Dites donc, c'est un monsieur. Hein.
Oui, non, mais il est très honnête, mais enfin, on n'est pas sur des arbres des premières plantations. Donc ça, c'est des arbres qu'il faut venir voir au moment de la floraison, hein. Ça fait des fleurs un peu originales. Et puis son feuillage est très, très, très original, oui. Hein, sur la forme des feuilles. Alors, je voulais aller voir un chêne. Oui, là, on est au pied d'un chêne pédonculé qui a la particularité d'être tous les glands sont parasités par un petit insecte. Alors c'est à... Ce qui se passe, c'est qu'en fait on a deux espèces de chênes ici. On a un chêne chevelu et un chêne pédonculé qui sont à proximité. Alors il y a un insecte qui a besoin des deux chênes pour faire son cycle. Les fleurs mâles du chêne chevelu sont parasités au printemps par ce petit insecte, qui est un petit hyménoptère de quelques millimètres. Hein. Ça, c'est le premier stade. À ce stade-là, il sort un individu qui peut voler et qui va venir parasiter les fleurs femelles du chêne pédonculé. Et là, donc, en parasitant les fleurs femelles, on a une transformation des glands qui deviennent stériles et qui prennent une forme ailée, là, tout à fait particulière. Et donc, l'arbre, pratiquement, là, ce chêne pédonculé, il ne peut plus germer. Alors, la singularité de ça, c'est que ces glands parasités, comme ça, servent à faire de l'encre.
On voit un bourgeois, excusez-moi, il est superbe.
Ah, c'est un, ouais. un pic.
C'est un pivert, ça,
ouais, ah, un pic vert, oui. Ouais. Qui était sur le...
Je vous ai interrompu dans votre explication. On ne voit pas tous les jours des oiseaux d'aussi près.
Il n'y a pas de mal. Ça, c'était un beau pic. Donc ici, on a des arbres qui sont âgés, qui ont des branches plus ou moins mortes. Donc c'est, pour le pic, c'est des endroits idéaux. Hein. Par exemple, en face de nous, on a le cyprès chauve, hein, qui est un arbre des marécages de Louisiane et qui est un beau spécimen, mais qui a été certainement soit cassé par le vent, soit cassé par la foudre, hein, et qui donc a pas mal de branches mortes, et à ce niveau-là, il est très intéressant pour les oiseaux arboricoles. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut aussi regarder. Il n'y a pas que les arbres, on peut aussi regarder la faune. Hein.
Je vous dis, en regardant, que c'est une œuvre de créer un arboretum. Finalement, c'est comme un tableau, c'est une composition. Il faut.
C'est une composition paysagère, c'est sûr. Hein. Là, on n'est pas sur quelque chose de naturel au sens de la nature sauvage. On est sur la nature construite. Après, c'est une nature construite sur des décennies, donc qui s'entretient. Et il faut aussi comprendre ce qu'a voulu faire la personne, hein, dans la gestion de l'espace. Donc ici, on a une pièce centrale qui est une pièce d'eau, et une forme de terrain qui a été modifiée en amphithéâtre. Donc tout est construit autour de cet amphithéâtre de la pièce d'eau. La Seine étant la pièce d'eau, et les pentes, on retrouve l'amphithéâtre romain, si vous voulez, et tout est construit autour de ça.
C'est pour gérer un arboretum, comme ça, il faut combien de personnes? C'est quand même du boulot, parce qu'il faut tailler les arbres, j'imagine.
Ça, je ne suis pas compétent, ouais, pour répondre. Ça, c'est des espaces verts de la ville qui le gèrent. Après, je dirais qu'il y a plusieurs aspects à gérer. Vous avez les arbres, pour les problèmes de sécurité, puisqu'on accueille du public. Et après, il y a les problèmes de la gestion des arbustes, et puis la gestion des pelouses. Vous voyez, vous avez trois niveaux, là. Vous avez le niveau herbacé, le niveau arbuste, et puis le niveau arbre. Donc, c'est trois problèmes différents. Hein, bon, le niveau pelouse, ça, c'est, on voit, tout le monde voit un peu la gestion de la tonte. Après, la gestion des arbustes, ben, c'est un peu le problème de savoir si on fait des bien taillés ou des un peu sauvages. Voilà, ça, c'est un jeu entre les deux options. Et la gestion des arbres, ben là, les arbres, globalement, il y a assez de place pour laisser des arbres qui se développent de manière majestueuse. Le problème, après, c'est le problème de sécurité, puisque on ne peut pas admettre que des branches ou des arbres tombent sur les visiteurs. Donc là c'est une gestion qui demande pas mal de soins pour le suivi de la qualité, des arbres. Après, il y a le problème esthétique de l'arbre, mais ici, bon, on n'a pas ce problème qu'on a sur les allées, enfin les rues en ville, puisque les arbres aussi sont pas taillés pour occuper un espace fini. Ils ont suffisamment de place pour se développer totalement. Hein. Par contre, je dirais, c'est surtout le problème de sécurité qui prédomine.
Oui, d'autant qu'il y a des jeux pour enfants, donc évidemment, les enfants circulent avec leurs parents.
Oui, puis, il y a les enfants, les adultes, enfin, tout le monde.
Aussi, c'est vrai.
Mais lors de tempête, par exemple, le jardin est fermé pour des problèmes de sécurité, puisque à partir d'une certaine vitesse de vent, des arbres qui font 40 mètres de haut sont quand même relativement sensibles. Donc ça, c'est un problème majeur, je dirais, en termes d'accueil du public, c'est le problème de la sécurité.
Alors nous sommes en été, pas de tempête à l'horizon, donc surtout précipitez-vous à l'Arboretum, venez jouir des ombres, des lumières, des feuillages, des chants des oiseaux, c'est un lieu absolument idyllique.
Tout à fait, hein, je pense que c'est fréquenté, mais peut-être pas assez, évidemment, pas assez, hein, je pense qu'on peut largement s'y promener, s'y reposer, et puis méditer sur des paysages tout à fait superbes.
Pierre, un grand merci à vous. On arrive au terme de cette émission. Et puis, donc, on rappelle que cet arboretum se trouve avenue d'Aligre. C'est pas très loin du stade des Grands Prés pour ceux qui connaissent. Et les touristes peuvent avoir des renseignements, je suppose, à l'office de tourisme au moins. Merci beaucoup.
Voilà, au plaisir.